sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, ici François Beauregard. Nous sommes lundi le 2 décembre. Ah bien, si vous sortez un petit peu de la maison, vous allez dans les magasins, vous entendez maintenant partout la musique de Noël. Hein, voilà, c'est avec nous. Si vous n'avez pas fait votre arbre ou accroché votre couronne ou mis quelques décorations ou guirlandes quelque part, bien, il vous reste encore 23 jours pour le faire. Et puis, vous savez, vous n'êtes pas obligé non plus. Voilà, vous pouvez passer à côté de Noël sans faire Noël. Quoi qu'il en soit, nous aurons le plaisir aujourd'hui de parler de certains anniversaires et de certaines dates marquantes. Nous aurons en notre compagnie Julie Montreuil, directrice des services cliniques au Carrefour familial des personnes handicapées, un organisme de Québec qui célèbre cette année, tenez-vous bien, son 75e anniversaire. Ce n'est pas rien dans le domaine communautaire. Nous aurons le plaisir d'avoir en notre compagnie également Monsieur Daniel Jean, qui est le grand patron, le directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Demain, 3 décembre, c'est la journée mondiale des personnes handicapées. Alors, on va en parler avec Monsieur Daniel Jean pour faire la revue de presse à 12h45. On accueille Élisane Pellerin, comme à l'habitude. Mais pour commencer, parlant anniversaire, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Isabella Federici, vice-présidente de Ami Télé, qui fête ses 10 ans. Tout ça à Sans détour. Il y a 10 ans, il y avait un grand cocktail, une grande réception au centre-ville de Montréal pour annoncer le lancement d'une nouvelle chaîne télé francophone, Ami Télé. La chaîne anglophone existait déjà dans le reste du pays, mais la chaîne francophone, c'était tout nouveau et ça fait, j'allais dire, déjà 10 ans. Eh bien voilà, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Isabella Federici. Bonjour Isabella.
Bonjour François.
Vous êtes vice-présidente développement du contenu et programmation à Ami Télé et vous êtes là depuis presque les tout débuts. C'est beaucoup de chemin parcouru, 10 ans, puis on a comme l'impression que finalement Ami Télé avait toujours été là, mais c'est pas le cas.
C'est pas le cas et oui, déjà 10 ans, le 16 décembre, on entrait en onde et en fait, oui, je suis là depuis les tout débuts. Au début, on était deux chez Les Plapointes, que vous connaissez bien, oui. Et moi. Qui avions commencé au printemps de 2014. Et donc, c'est quelques mois de remis-ménage, d'engager les bonnes personnes nécessaires pour préparer le lancement de la station, les contacts aussi, les relations établies avec les différents organismes qui étaient en lien avec l'émission d'Ami Télé. Et voici 10 ans plus tard. Je pense qu'on est maintenant une chaîne bien établie dans le paysage médiatique. On donne une voix aux gens en situation de handicap et je pense qu'ils se reconnaissent aussi à l'écran. C'est l'importance de ce qu'on fait aussi. Hein. C'est ce qu'on
Tout
veut.
À fait.
On veut donner une voix.
À des fins de transparence, Isabella, je m'excuse parce que j'ai omis de le faire en entrée de jeu. C'est important que tout le monde qui nous écoute sache que François Beauregard, ici présent, a collaboré à Ami Télé de façon régulière. Alors, c'est sûr qu'on ne parlera pas d'objectivité journalistique ici. et que je suis également membre du conseil d'administration de l'organisme qui chapeaute Ami Télé. Alors là aussi, on est en pays de connaissance. Mais cela dit, on est quand même capable de dire que depuis 10 ans, Ami Télé s'est amélioré par rapport aux toutes premières années.
Ben, merci du compliment. Et oui, je reviens sur ton implication chez nous. Oui, tu as été et tu es encore très important pour nous et on est heureux de collaborer toujours avec toi. Puis, il y a eu une amélioration au début, par le mandat qu'on avait reçu du CRTC, on devait rendre les contenus accessibles à la communauté malvoyante en faisant la vidéodescription et améliorer les meilleures pratiques aussi en vidéodescription, parce qu'à ce moment-là, il y a 10 ans, c'était vraiment de qualité plus ou moins égale. Oui. Et on a commencé par ça. Puis ensuite, on a dit, ben, peut-être qu'on devrait, avec Philippe Lapointe, justement, on dans les premiers mois, on a dit, ben, peut-être qu'on devrait penser à une émission de service qui pourrait être utile pour la communauté, pour les informer, sensibiliser la population générale aussi, pas juste s'adresser aux gens en situation de handicap. Et donc, c'est comme ça que Ça me regarde a été créé et lancé en avril 2015 et qui évolue. On est rendu à notre 11e saison et qui est toujours aussi apprécié, hein, parce qu'on a beau savoir faire la télévision, il faut être certain que ce qu'on fait plaît et rejoint des objectifs et rejoint la communauté. Donc, le panel de recherche avec qui on travaille de façon sporadique sur différents projets nous confirme toujours que Ça me regarde a une importance pour eux.
Et c'est pas tous les médias qui font ça, je pense. Où ils le font, c'est plus à des fins de vente de publicité, là. Ami Télé a, je dirais, la liberté intellectuelle de ne pas avoir de commanditaire et n'avoir finalement qu'un auditoire à desservir.
Exactement. C'est certain que oui, on aimerait beaucoup aller chercher de la commandite de différents organismes qui soutiennent les communautés de handicap, mais ça demeure difficile, ou même un revenu publicitaire, c'est très difficile parce que il faut admettre que Amitélé ne va pas chercher de grandes cotes d'écoute, sauf exception faite de Vestiaire le printemps dernier, qui a vraiment été notre plus grand succès. Mais oui, on a une liberté de ce côté-là. On met de travailler avec notre panel de recherche. C'est vraiment ça qui guide nos décisions et qu'on va décider est-ce qu'on devrait renouveler une émission ou est-ce qu'on devrait l'améliorer et comment l'améliorer. Donc, c'est là que le panel nous est très utile.
Parce que oui, vous parliez tout à l'heure de la vidéodescription qui, au début, était simplement une voix hors champ qui disait « Isabella rentre dans la pièce », et ainsi de suite. Et par la suite, c'est devenu intégré au script même, c'est-à-dire qu'au lieu d'entendre une voix, venant de l'au-delà, de l'émission elle-même, c'était à l'intérieur même des dialogues ou de la narration du récit, on comprenait mieux ce qui se passait, même si notre vision était déficiente. Alors, vous avez déjà passer à ce qu'on appelle la vidéodescription intégrée, ce qui est en soi un grand pas en avant. Et puis maintenant, avec Vestiaire, vous sortez de l'univers strict de la télévision de service et communautaire. Et maintenant, vous êtes dans l'histoire drôle, là. Vestiaire, c'est aussi une émission de télévision grand public que spécialisée, là.
Absolument. Vestiaire, c'était un projet de longue haleine qui m'avait été présenté il y a 8 ans par une maison de production ici à Montréal, qui est basée sur une émission, une production française qui a eu une longue vie, 11 saisons sur France 2. Et la dernière saison a été diffusée l'été dernier. Et je savais à ce moment-là que c'était vraiment quelque chose qui serait parfait pour nous, sauf que c'était un peu trop tôt dans notre petite et courte vie de diffuseur. Et avec le temps, le projet est toujours resté dans nos boîtes, dans nos cartons. On voulait toujours le faire, et autant le producteur que nous. Et finalement, tout s'est aligné à l'automne 2022 pour qu'on puisse lancer la production qui est entrée en onde cette année. Donc, il faut être persévérant, il faut croire aussi. Et le succès démontre qu'on a eu raison d'y croire à ce projet-là. Et on est présentement en production de la 2e saison qui va être présentée au printemps. Toujours avec la collaboration financière de Radio-Canada, ce qui était très important pour nous. On a une belle collaboration avec eux et sur différents projets. Et il y a une ouverture aussi. Donc, comme on n'est pas perçu par les autres diffuseurs comme un compétiteur publicitaire, ça aide aussi à créer de beaux partenariats.
Et le contenu de Ami Télé, on peut obtenir, on peut goûter au contenu d'Ami Télé de toutes sortes de façons, parce que c'est pas uniquement câbleau de manière linéaire, mais il y a plusieurs façons d'avoir du Ami Télé sur son écran.
Tout à fait. On a naturellement, on a développé une application de diffusion en continu qui s'appelle Ami Plus, donc amiplus.ca, où est-ce que on peut avoir accès à nos contenus de façon gratuite sur Internet et sûrement le site Internet, mais le site Internet a changé un peu son...
Oui.
Son fusée, on est plus le site corporatif d'information sur AMI, Accessibilité Média. Il ne faut pas oublier qu'est-ce que ça veut dire. Accessibilité Média Incorporée, qui fait l'acronyme AMI. Et aussi, on a une belle entente avec Tout.tv qui met en disposition certains de nos contenus aussi sur le Tout.tv de base, donc sans l'abonnement à l'extra de Tout.tv. Ce qui est important pour nous, là, d'être disponible pour le moins cher possible. Et voilà, on développe aussi d'autres applications là, qui devraient être lancées prochainement, mais au départ, amiplus.ca, c'est vraiment notre plateforme de diffusion en continu qui est toujours accessible.
Parce que si, par exemple, on tombe en amour avec une émission ou une série en particulier, puis on se dit « Ah, j'ai manqué les premiers épisodes », ben voilà, on va sur amiplus.ca, on trouve les épisodes antérieurs de l'émission. Et il y en a toutes sortes. Là. Vestiaire, évidemment, sort du lot de par l'éclat que ça a eu sur la scène médiatique en francophone au courant des derniers mois. Mais il y a beaucoup d'autres séries qui sont tout à fait valables. L'idée de faire une comédie de situation, parce que Vestiaire, c'est une émission qui est drôle, où on s'attache petit à petit aux personnages. Est-ce que maintenant que ça n'a pas été fait d'aller vers des séries avec script et dramatisation, est-ce qu'il y a d'autres choses dans les cartons?
Pas officiellement. Présentement, on n'a pas d'autres séries de fiction, mais c'est certain que c'est quelque chose qu'on aimerait développer aussi, parce que c'est Vestiaire, c'est pas juste une série de sketch, c'est aussi mettre les gens en situation de handicap à l'écran.
Tout à fait.
Parce que c'était très important, il fallait que les gens, comme dans la série française, les acteurs, les comédiens sont à 95% des gens en situation de handicap. Et c'était ça le beau défi aussi, de trouver des gens qui pouvaient jouer et sans avoir nécessairement la formation d'acteur, parce qu'il y a encore très peu de gens en situation de handicap qui sont comédiens de formation, et de trouver la bonne équipe de production qui était prête à embarquer dans ce projet-là, à développer les talents. Et c'est quelque chose aussi qui était une belle expérience, très positive pour l'équipe de production.
Oui.
Parce qu'au début, il y avait peut-être un peu de crainte, de résistance à dire « Mon Dieu, qu'est-ce que ça va être? »
Des comédiens amateurs, ça fait toujours un peu peur là, au moment du début de la production. Là.
Hein? Oui, mais vraiment, tous les astres étaient bien alignés. Vraiment, c'était parfait. Ça a été vraiment une expérience positive, autant pour les comédiens que pour les gens de production, et encore plus pour Annie.
Oui, parce que la représentation, il y a deux côtés à tout ça. Il y a ce qui est devant la caméra, c'est-à-dire la représentation positive et divertissante pour faire de la bonne télé de personnes en situation de handicap, mais il y a aussi la participation aux personnes en situation de handicap derrière la caméra dans la création et la production de contenu.
Exactement. C'était très important pour nous que, à l'écriture des textes, que ce soit des gens en situation de handicap qui participent à l'écriture pour justement avoir un regard juste, avoir un ton juste, refléter vraiment des situations qui existent, qu'ils ont pu avoir vécues. Et aussi, avec les comédiens, il y a des sessions de remue-ménage aussi pour voir des idées de texte. Donc ça, c'était important pour nous. Ça donnait une valeur, ça donnait...
Une véracité, une pertinence qui sans laquelle tout ça aurait peut-être été un peu cru. C'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui, Isabella. Merci. Simplement rappeler qu'il y aura un Sam Regarde spécial qui va être diffusé samedi le 14 décembre à 15h.
Exactement, oui. On fait le tour de nos anciens animateurs de Ça me regarde, on parle d'Annie Kelly et qu'est-ce que le futur nous annonce.
Bon, mais parfait. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y aura à l'écran prochainement à mi-télé, ben allez faire un tour le 14 décembre, un Ça me regarde spécial 10e anniversaire et on en souhaite au moins plusieurs autres. Merci, Isabella.
Merci beaucoup, François.
C'était Chick Corea, Pastime Paradise. Voilà, ben vous pouvez trouver le reste de la chanson, hein, je suis sûr, votre plateforme de musique préférée. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie M. Daniel Jean. Bonjour, M. Jean.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Ben, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Vous êtes directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec et demain, 3 décembre, c'est la Journée internationale des personnes handicapées. Alors, ça, c'est pas rien. Il y a toutes sortes de journées pour toutes sortes de causes hein, au courant de l'année. Puis il y a les semaines ou les mois de ceci, puis les journées de cela. Mais une journée internationale pour un groupe qui représente pas loin de 15 à 20 quelques % de la population, c'est incontournable. Et le thème cette année que l'Office donne à la journée, c'est « J'embarque ».
Oui, un monde plus inclusif, « J'embarque ». Et pour nous, ben, c'est un événement, hein, ça fait 32 ans que cet événement-là existe, c'est un événement qui nous permet de replacer des messages, de rappeler aux gens que si on veut construire une société plus inclusive, ben, il faut poser des gestes très concrets pour avancer. Oui. Et actuellement, ben là, la population québécoise, c'est 21% des personnes qui vivent avec une incapacité au Québec. Donc, il y a une augmentation et malgré ça, on a c'est l'endroit au Québec où il y a le moins de personnes handicapées au Canada. Et vous voyez, il y a une augmentation qui va avec la courbe d'âge.
Oui, parce que la population vieillit. Alors, il y a certainement des pathologies qui, avec le temps, font surface là, et posent problème. Alors, vous dites qu'on a 21% puis on est la population qui est la moins souvent en situation de handicap du Canada. Là, ça me semble difficile à comprendre.
En fait, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que dans les provinces francophones au Canada, dont le Québec, un petit peu le Nouveau-Brunswick, là où il y a des francophones, il n'y a pas un réflexe de s'auto-déclarer
de
personnes en situation de handicap dans les différents recensements, les différentes études. Actuellement, les chercheurs, ce qu'ils constatent, c'est qu'il y a ce biais-là, ce qui fait que quand on regarde la carte du Canada, puis avec les pourcentages par province, bien, on voit que là où il y a moins de personnes qui sont déclarées en situation de handicap, bien, c'est là où est-ce qu'il y a des francophones. Et le travail de l'Office, bien, c'est pas de passer ça sous silence, bien au contraire, parce qu'on se rend compte que les personnes handicapées utilisent des fois pas de façon optimale les services auxquels ils auront.
Tous les leviers à leur disposition.
Notamment tout ce qui touche au niveau fiscal, il y a une sous-utilisation des abris fiscaux là, des mesures fiscales qui pourraient aider les personnes.
Oui, parce que parfois, peut-être pour une raison culturelle dont on pourrait débattre longtemps, les gens disent ben, ce qui m'arrive, c'est normal ou ça fait partie du vieillissement ou peut-être dans une société qui n'est pas encore totalement inclusive, on a peur de s'auto-déclarer pour ne pas être vu de travers par son employeur ou par le milieu scolaire dans lequel on évolue ou dans son entourage. Et ça, c'est à la fois dans l'esprit de la personne qui ne se déclare pas autant que dans l'œil de la personne qui nous regarde.
C'est ça. Et dans les faits, les personnes qui vivent avec une situation, qui sont en situation de handicap, c'est des personnes qui sont dans une condition et si on veut... ils sont pas nécessairement malades dans les faits parce que c'est une condition, c'est relié, on a perdu, supposons, les capacités auditives. Et si on veut participer à notre société, si on veut être plus inclusif, ben, il faut ajuster les services, ajuster les moyens pour que la personne puisse entendre, puisse prendre part réellement au débat dans les sociétés.
Et le rôle de l'Office, justement, c'est d'être un facilitateur, si je peux dire, pour voir à ce que le public en général puisse mieux accueillir les personnes en situation de handicap, d'une part, et que les personnes en situation de handicap se sentent plus à l'aise, justement, d'utiliser ces leviers-là. À l'occasion de la Journée internationale, demain, mais c'est dans un sens plus large que ça, vous avez mis à la disposition de tous sur votre site des vidéos qui servent à sensibiliser les gens.
Oui, on a entre autres des vidéos, trois courtes vidéos qui vont aider les jeunes qui vivent en situation de handicap ou les membres de la famille pour travailler tout l'enjeu de l'intimidation. On sait que dans le fond, l'intimidation, ben c'est quelque chose de pas facile dans le développement d'un individu à composer avec cette situation-là. Donc nos trois courtes vidéos permettent avec des mises en scène, avec des personnes réelles, ça nous permet de voir comment on peut aborder la question. Puis on a aussi sur notre site Internet un document complémentaire là, qui vient apporter plus de contenu au niveau théorique. Puis aussi, on a sur notre site, puis on veut rendre la société plus inclusive, on a sur notre site des vidéos aussi qui permettent de mieux accueillir les personnes. Donc, c'est de l'auto-formation. Oh, oui. l'auto-formation, mieux accueillir les personnes handicapées. Et jusqu'à maintenant, c'était lancé en 2021, puis on ramène ce sujet-là parce qu'on trouve que c'est important de comment accueillir les personnes dans les services publics et les services privés. Actuellement, il y a 33 000 personnes qui ont suivi ce cours d'auto-formation-là.
D'accord.
C'est très simple, c'est accessible et ça donne des bonnes idées.
Oui, ben je peux comprendre. Ayant moi-même une déficience visuelle, là, on dirait que culturellement, c'est pas tout le monde qui comprend ce que c'est qu'une canne blanche. Mais aussi, même si je me présente à un comptoir et que ben là, ma canne, je l'ai repliée, puis là, la personne à qui je m'adresse d'emblée ne peut peut-être pas deviner que je ne vois pas très bien. Puis là, quand on demande à quelqu'un où est le crayon, où est la console, pouvez-vous m'aider? Puis là, des fois, les gens froncent les sourcils puis ils répondent pas de façon très efficace. Ils disent, ben c'est là. Malheureusement, là, c'est n'importe où. mais quand les gens s'en aperçoivent, ou que je suis obligé de le dire, enfin, là, finalement, ils disent, ah, ben c'est près de votre main gauche, ou ainsi de suite. Alors, des gens qui vivent avec une surdité aussi, ou peuvent avoir des handicaps, mais ainsi de suite, qui ne sont pas évidents. Et l'accueil, ben, c'est un peu, ça fait partie justement de l'intégration, que ce soit à la caisse, à l'épicerie, à la réception d'un hôtel, à la bibliothèque municipale ou ainsi de suite. Et là, c'est là que souvent, c'est froissant, si je peux dire, d'être mal accueilli. Et en même temps, ben, c'est si simple.
C'est ça. Et le fait de se rendre... de rendre nos services plus accessibles. Dans le fond, les capsules d'auto-formation illustrent ça. C'est que dans les faits, on développe une approche de bienveillance envers chacun, d'une certaine façon, parce qu'on prend le temps de regarder à qui je m'adresse, puis comment je peux ajuster ma communication à cette personne-là. Puis on se rend compte que c'est faisable, c'est très simple. Puis on se rend compte aussi que les personnes handicapées ont un énorme potentiel, comme tous les autres citoyens de la société, dans le sens qu'ils peuvent travailler. Puis dans notre campagne, on parle de l'embauche des travailleuses et des travailleurs handicapés. Puis au Québec, entre autres, on a réussi en 2022 à atteindre quand même un pourcentage assez élevé là, de personnes handicapées qui travaillent. On est allé plus loin, on était à 67%. On est allé plus loin que le Canada, la moyenne du Canada,
bravo.
En Ontario. Donc, nos mesures fonctionnent, on est dans la bonne direction et on se rend compte que tous ceux qui ont une formation, qui sont qualifiés, qui ont des compétences, ben, on est capable de leur trouver un emploi.
Ça fait une énorme différence. C'est sûr que c'est comme c'est un énorme chantier, hein, rendre toute une société plus inclusive, plus accueillante. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ce sont des pas de ce genre-là dans la bonne direction. Ben, Monsieur Jean, il va y avoir plein de chantiers encore qu'il faudra continuer de bâtir au cours de la prochaine année, l'emploi, le transport. Mais j'invite les gens d'aller sur le site de l'OPHQ parce qu'il y a plein d'outils qui sont juste là, qui nous attendent. Et d'ici là, ben, je vous souhaite un beau temps des fêtes, Monsieur Jean.
Je vous remercie à vous aussi, à vos auditeurs. Je vous souhaite le meilleur et qu'on aille vers une société la plus inclusive possible en 2025.
Ah, quel beau souhait. Merci.
Oui. Au revoir.
Avec François Beauregard.
De retour, 75 ans, c'est beaucoup, 75 ans. La plupart d'entre nous n'avons pas encore atteint cet âge. Mais 75 ans derrière, à Québec, le Carrefour familial des personnes handicapées, qui ne portait pas tout à fait ce nom à l'époque, a pris naissance. Et ça a été, entre autres, si je peux dire, l'œuvre de M. Lorenzo Verret, qui s'est dévoué corps et âme à cette cause et qui aujourd'hui continue. Et on va en parler avec Mme Julie Montreuil, directrice des services cliniques. Bonjour, madame.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, merci. 75 ans, c'est beaucoup de chemin parcouru, là, et avec une mission qui n'a pas dévié. Vous êtes toujours aussi, je dirais, droite dans votre action.
Ben, en fait, oui, effectivement. D'ailleurs, c'est vraiment le constat qu'on a fait de façon rétrospective en pensant d'ailleurs à M. Lorenzo Verrette en disant est-ce qu'il serait fier de nous 75 ans après? Et puis, effectivement, je pense que qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui nous est apparu, en fait, c'est qu'on a resté fidèle à notre mission de base, c'est-à-dire d'être vraiment un organisme d'aide entre aides. On est vraiment dans cette optique-là avec vraiment, on valorise beaucoup l'éducation populaire puis l'autodétermination des personnes. Puis ça, ça l'a resté là pendant 75 ans de temps, ça fait que c'est quand même pas pire.
Oui, bien tout à fait, parce qu'au début, en 1949, la société n'était pas aussi accueillante pour les personnes handicapées. Ben d'abord, c'était des infirmes. Hein? Et puis des gens qui n'étaient pas capables, qui ne valaient pas grand-chose sur le milieu du travail, là, et qui étaient plutôt un fardeau dans la famille, hein? Appelons les choses par leur nom. Alors que des personnes en situation d'handicap se prennent en main, puissent créer quelque chose pour s'aider et favoriser l'autonomie, c'était énorme. Puis de survivre n'a pas été facile.
Effectivement, puis je vous dirais que nous, on a eu vraiment la chance de pouvoir parler à la fille de Lorenzo Verrette.
Oui.
Et puis elle me disait qu'au départ, c'est que son père avait honte parce qu'il boitait, en fait.
D'accord. C'est
que elle disait qu'il n'était même pas capable de passer devant une vitrine de magasin de se voir. Puis il s'est dit, je ne dois pas être le seul comme ça. C'est qu'il a fait paraître une annonce dans le journal. C'est comme
D'accord.
ça que ça a vraiment
okay.
débuté. En se disant, s'il y a des personnes qui sont dans ma situation, on va se regrouper chez moi. Une journée par semaine. C'est que ça a vraiment commencé, débuté comme ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'a fait Lorenzo? Puis c'est qu'est-ce qui est fabuleux, c'est que le Carrefour familial des personnes handicapées a été l'incubateur de plein d'autres projets, dont le Centre de réadaptation de Québec.
Oh, oui, c'est pas rien, ça, c'est énorme.
Non, effectivement, les vignettes de stationnement hein, pour les personnes en situation de handicap, Adaptavie aussi à Québec, ça a été une initiative d'abord du Carrefour. C'est qu'en fin de compte, on a toujours été un incubateur de projets. Une fois que le projet fonctionnait bien, on le fait aller.
Oh.
C'était vraiment le cas pour la vignette de stationnement. Finalement, maintenant,
oui.
c'est
oui, ben,
on s'entend que c'est provincial.
Ben, je peux pas imaginer aujourd'hui que tout ça disparaît et non, ce serait tellement lourd de conséquences. Là. Ce serait énorme. Mais donc, vous êtes toujours dans le quartier Saint-Roch à Québec. Et même que M. Verret a laissé son nom, si je peux dire, dans la toponymie locale.
Oui, on a un petit parc à côté de maintenant de l'organisme qui s'appelle Lorenzo Verrette. C'est la première fois qu'un parc ou quelque chose porte le nom d'une personne en situation de handicap qui a fait des réalisations. Alors, on est très, très fiers.
D'accord. Et qu'est-ce que maintenant au quotidien, ben, maintenant que les 75 ans, c'est bien, mais on en veut d'autres, hein, comment votre action se déploie maintenant, aujourd'hui, dans la communauté autour de vous? Vous êtes toujours dans les mêmes axes qui vous importent?
Tout à fait. Nous sommes présentement dans un gros projet de faire un logement d'urgence, un projet qui avait déjà existé au Carrefour dans le passé,
d'accord.
Mais qui devient de plus en plus criant. Vous comprenez que la situation à Québec, ça doit être la même chose à Montréal.
Ah, c'est partout,
la situation
oui.
à Québec au niveau de l'itinérance ou de la prévention de l'itinérance chez les personnes handicapées nous préoccupe énormément. Maintenant, nous avons une intervenante psychosociale pour justement s'assurer en fin de compte de travailler avec la sécurité alimentaire,
oui.
en sécurité alimentaire, trouver des logements aussi, ça devient de
Parce
plus
que,
en plus en casse-tête.
En plus des logements, ce qui arrive avec la crise du logement, c'est que les personnes, toute la population fait face à la difficulté de se loger de façon adéquate. Ça, c'est clair. Et les personnes en situation d'handicap, c'est pire parce que le logement risque de ne pas être adéquatement adapté. En plus, une population qui est économiquement défavorisée. Alors, d'être coincé puis de se faire sortir, les personnes en situation d'handicap vivent ça de façon plus prononcée. Hein? Et puis rendu en situation d'itinérance, ben là, on décroche du système et puis ça déboule.
Mais c'est qu'en fait, il n'y a même en situation d'itinérance, on a un problème, c'est que même les refuges ne sont pas accessibles.
oui, là, voilà.
C'est surtout pour les hommes, hein, c'est parti, parce qu'on a le oui. Y qui est quand même accessible pour les femmes, mais pour les hommes, il n'y a rien. Alors, ça devient comme vraiment, en fin de compte, ils se ramassent directement dans la rue, là.
Oui.
Ça fait que ça n'a pas de sens. Puis il faut voir aussi que l'handicap, c'est l'argent. Nous, on le travaille de façon transversale, mais l'handicap, c'est aussi de te ramasser à l'hôpital parce que tu fais du diabète, de te faire couper une jambe, puis demain matin, il faut que tu trouves une place pour te loger.
Oui, et en plus de vivre avec une nouvelle réalité.
Exactement. C'est que là, en fin de compte, avant que tous les services se mettent en place, on sait que c'est long, puis je pense que ça va être encore plus long dans les prochains mois. Le temps qu'on mette tous les services en place, c'est long. Puis ce temps-là, on ne l'a pas. C'est-à-dire, nous, on a eu un monsieur qui était à l'Aube-Rivière, mais dans l'aile sentimentale. Puis, tu sais, on a eu 3 semaines pour la replacer, là. Oui. Mais le monsieur, c'était une fenêtre de se faire couper toutes les orteils.
Oh, d'accord. Mais concrètement, parce que votre organisme, c'est un parmi d'autres, puis vous n'avez pas des moyens, comment je dirais ça, universels, là. Vous n'êtes pas... Vous ne pouvez pas tout faire. Quelqu'un qui va chez vous, avec qui vous êtes en contact, qui est dans une situation de logement d'urgence, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider? Vous connaissez les ficelles à tirer?
Mais en fait, nous, on travaille beaucoup avec les autres organismes du milieu. On a aussi, on travaille avec le CIUS, on travaille vraiment en collaboration, en partenariat, ce qui fait que c'est rare qu'on ne trouve pas de solution. Là.
D'accord.
Mais ça prend du temps, mais c'est en fin de compte, le logement d'urgence, ça ne demanderait pas comme. Tu sais, on sait déjà où serait le logement. C'est vraiment les fonds nécessaires, puis d'avoir un salaire là, qui soutienne tout ce travail-là, parce que c'est quand même un assez grand travail, là. C'est un 40 heures par semaine, certain.
Tout à fait.
Ça fait que c'est ça. On veut rien bâtir, on veut partir d'un logement qui est déjà comme déjà existant. Sur place, déjà bâti, ouais. Ça.
Un autre chantier, si je peux me permettre, un autre chantier aussi qui est important, c'est celui de la violence conjugale. Parce que les femmes en situation de handicap sont terriblement... sont mal prises de toutes sortes de manières parce qu'elles sont plus souvent victimes, puis il y a moins de ressources.
Puis il n'y a pas de logement. Oui. On tourne en rond, hein. Puis ça serait le logement d'urgence qui viendrait aussi là, pour les femmes qui sont en situation, ou les hommes. Il faut dire que les hommes vivent 2 fois plus de violences conjugales que les autres. Il ne faut pas non plus le minimiser. Mais c'est effectivement la violence conjugale, on est dans des gros projets de recherche. On a fait 2 guides, on a fait 2 capsules vidéo, on a fait une formation aussi. Alors, puis on fait aussi de l'art engagé.
Okay.
On a un recueil de nouvelles qui a été créé, puis une pièce de théâtre qu'on a présentée à notre 75e, qui a été vraiment écrite et présentée par les membres.
Oh, d'accord, mais ça c'est bien. Est-ce que c'est encore on peut encore y aller parce que c'était au fin novembre, je pense.
Oui, c'est ça. Non, là, c'est terminé, sauf qu'on va leur présenter, là. Je pense que tout le monde a eu la piqûre du théâtre. Ça fait qu'on va sûrement leur présenter. C'est ça, c'est vraiment attendrissant de voir que, tu sais, c'est déjà monté sur scène, c'est quelque chose,
oui.
Prendre un texte,
oui.
Puis décrire sa propre réalité aussi.
Oui. On est loin de M. Verret qui ne voulait pas se voir dans une vitrine.
Présente, oui, hein? Tout à fait. Alors, en gros, c'est ça. Sinon, on a fait un documentaire sur la lutte de la défense des droits des personnes handicapées.
D'accord.
Alors, c'est ça. Ça fait pas mal le tour depuis 4 ans, depuis que je suis en poste.
Ben oui. Vous avez un magazine, hein, qui s'appelle Azimut, est disponible sur votre site web.
Oui.
Et puis, vous avez fait un spécial 75e anniversaire.
Oui. Oui, on peut le retrouver sur notre site Internet. Puis nous, notre magazine est lu à chaque fois, à chaque parution.
Bravo.
Fait que sur Spotify, on peut entendre le magazine.
Bon, ben ça va être important. Ah, je sais que vous avez aussi une implication sur des dossiers comme la mobilité. On voit que la Ville de Québec fait beaucoup d'efforts de ce temps-ci. En tout cas, beaucoup de choses sont annoncées pour la sécurité des piétons, entre autres. On a remarqué ça au cours des dernières semaines là, dans les fils de nouvelles. Et évidemment, ben, l'emploi, parce que, encore une fois, l'emploi, le logement, tout ça, c'est la même chaîne. Hein?
Oui, puis l'employabilité, en fin de compte, c'est peut-être un effet bénéfique du revenu de base, en fait, parce que on s'est aperçu que de ne plus être dans la survie permet la contribution.
D'accord.
C'est-à-dire que les personnes maintenant qui n'ont plus à se soucier de la survie, malgré que ce n'est pas des gros montants, mais le fait de ne plus être dans cette dynamique
urgence.
De survie, d'urgence, c'est ça, exactement, ont le désir de contribuer à la société, c'est qu'ils ont le désir de travailler, même si des emplois à temps partiel, mais nous, on a vraiment vu une montée de l'intérêt pour le marché du travail.
Ah, bien ça, c'est encourageant. Ça, c'est comme un changement de direction des vents, hein, si on peut.
Oui. Puis, tu sais, ça, on peut dire, écoutez, il y a des réussites sociales, ça en est une.
Ben, bravo.
Il faut les nommer en ce moment.
Ben, il faut les souligner parce que il faut bâtir sur quelque chose. Alors, chaque fois qu'il y a une pierre de plus à l'édifice, ben, tant mieux. Mais ben, Mme Montreuil, merci beaucoup. On souhaite un autre 75 ans au carrefour familial des personnes handicapées et beaucoup d'autres réussites et beaucoup d'autres organismes ou initiatives qui vont naître chez vous et qui vont prendre leur envol.
Merci beaucoup de l'invitation.
Merci.
Au revoir.
Dans mon bateau et je switch en mon vieux radio. space your home all the time, but the chicken is not cold. Salut, CB buddy. Hello, honky turkey. Sire, the weapon Mason Highway. Hello, honk turkey. Sire, the weapon Mason Highway.
And for their teddy bear, I'm rival Golden Vagabond.
Sire, the weapon Mason Highway.
Hey, CB Buddy, hein, le groupe LGS, c'était le groupe Swing au début, mais ils ont changé de nom, ils appellent ça juste LGS, mais c'est pas grave, c'est des gens du nord de l'Ontario, et qui sont encore tout à fait, je dirais, actifs sur la scène musicale, surtout si vous allez en Ontario, dans l'Ontario francophone. Bravo. Eh bien, on a le plaisir d'avoir en notre compagnie Mme Élisane Pellerin. Bonjour.
Bonjour, François.
Encore une fois, le tour du monde en moins de 7 jours, ou à peu près.
Je suis comme ça, François. Hein? J'accumule et
meurs. Oui, puis je sais pas, ça en a fait beaucoup à la fin de l'année.
Ben voilà.
Alors, ben, c'est tout le mérite vous appartient. Vous étiez à Madagascar la semaine dernière.
Fait. Tout à fait, François. Je me suis sauvé de la neige. Parce qu'au nord, nous, on a de la neige ici.
Ah, Saint-Jérôme, oui, ça, c'est
mais nous,
c'est
on a de la neige. Et voilà, on parle de Madagascar, où l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail.
Oh!
C'est la réussite de 67 jeunes en situation de handicap pour les intégrer au monde du travail. On parle du Centre national de formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap.
Le CNFPPSH.
Effectivement, qui forme aux compétences et aux outils nécessaires à une bonne intégration au travail. Donc, c'est une formation qui est donnée à des jeunes en situation de handicap pour les aider à intégrer le travail. On sait que, évidemment, si les problèmes ici sont grands au Québec, au Canada et en Occident, évidemment, Madagascar...
C'est un pays qui est en développement et
c'est un pays en développement, donc c'est un pays où les droits des personnes en situation d'handicap...
Sont plus fragiles.
Voilà, il reste un petit peu à faire au niveau d'intégration de travail, bien sûr. Même si on a des problèmes ici, les problèmes sont plus importants là-bas, donc c'est quand même une bonne première de faire des formations pour intégrer ces gens-là au travail. Donc, on parle de 15% de la population mondiale.
C'est 1 milliard!
Oui, un milliard de personnes. Évidemment, on parle de tout type d'handicap ici confondu, incluant des personnes qui ont des problèmes qui viennent avec la vieillesse, par exemple.
Oui, mais ils ne s'en sont pas moins réels.
Non, ils sont pas le moins réel, mais voilà, c'est un type d'handicap donc qui est large. On parle de 80% qui sont en âge de travailler, mais malheureusement, évidemment, se heurtent à des difficultés au niveau de la réintégration au travail, entre autres à cause des préjugés, mais aussi à cause des compétences à acquérir des fois au niveau de la formation. Ce n'est pas s'adapter pour recevoir ces gens-là dans des centres de formation ou dans des écoles, particulièrement, vous l'avez dit, François, dans des pays en développement.
Ça, c'est là, les difficultés sont multipliées.
Oui, parce que l'intégration à l'école, là, si c'est difficile pour certaines personnes ici, on en a parlé dans les dernières semaines. Imaginez à Madagascar.
Oui, Madagascar est une économie très, très fragile. Hein. C'est parmi les pays les plus démunis, même s'il s'agit en fait d'un pays incroyable, une île immense avec une flore et une faune unique.
C'est magnifique, mais malheureusement...
C'est pas un endroit où il est facile de vivre.
Ils n'ont pas énormément de ressources à exporter, malheureusement. Oui, oui. Ils peuvent vivre un peu du tourisme, mais bon...
Ce sont des producteurs de vanille.
Oui.
Mais là encore, il y a des problèmes avec la vanille. Mais ça, c'est une autre histoire.
Ben, c'est toute une question de capitalisme, François. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils se font... ils vendent à bas prix pour être capables d'être compétitifs. Et au bout de la ligne, le pauvre producteur qui travaille au champ a peu pour répondre
à
ses besoins. Voilà.
Voilà. Mais enfin, la vanille, ça paraît pas, mais c'est l'essence la plus populaire sur Terre.
Oh, quand même!
Plus que le café. plus que le chocolat.
Je ne savais pas.
Oui, ils mettent de la vanille dans tout, même quand c'est pas la vanille.
Moi, je préfère le chocolat, mais c'est personnel.
Ben, ça, c'est une question de goût.
Donc, pour revenir à notre...
Madagascar, mais il y a des pays quand même qui sont, ou des régions, qui sont là aussi peut-être un petit peu plus défavorisé, où il y a quand même des choses qui se passent. Alors, il faut souligner ce qui se passe à Madagascar.
Oui.
On reste dans l'océan Indien, quelques milliers de kilomètres vers l'est. On trouve l'île de la Réunion.
Oui, l'île de la Réunion qui célèbre les 10 ans de la charte Romain Jacob. Donc, la Réunion qui compte 37 000 personnes ayant un droit ouvert au titre de handicap, donc en bon français, 37 000 personnes qui seraient en situation d'handicap. Et la charte Romain Jacob, qui est un guide d'accès aux soins pour les personnes en situation d'handicap, qui est devenu un outil de certification pour les hôpitaux de France. Il faut dire donc que l'île de la Réunion est une île française.
C'est un département français. Oui.
Parce que, évidemment, ça a été colonisé par la France, un peu comme l'île Saint-Martin, par exemple.
Oui, donc, ou la Martinique, la Guadeloupe.
Oui, la Martinique
aussi.
Et la Guadeloupe, effectivement. Donc, ils sont toujours sous gouvernance française. Donc, à ce moment-là, on les considère toujours comme étant des territoires français. C'est pourquoi on parle de France.
La charte, en fait, de cette affiliation-là, la charte Romain Jacob, qui fait l'énoncé de 12 principes qui doivent sous-tendre les services aux personnes en situation de handicap, l'accès aux soins, le droit au répit, l'accès à l'emploi, l'aide aux aidants, mais ça c'est important, l'inconditionnalité de l'accompagnement au quotidien. Cette charte a été rédigée il y a 10 ans, en 2014. Monsieur Pascal Jacob était le président de l'association Handidactique, est à l'origine de la charte. Son fils Romain, qui est aujourd'hui décédé, vivait avec un handicap. En fait, deux des trois enfants de M. Romain sont en situation d'handicap. Alors, lui, il a nommé la charte au nom d'un de ses fils. Voilà. Alors, c'est de là que ça vient. Mais maintenant, il y a 7000 organismes en France et partout dans le monde qui ont co-signé cette charte.
Oui, donc c'est quand même un bel exploit, François.
Ça fait
à la Réunion cette semaine, donc, en fait, la semaine dernière, je devrais dire, on a souligné quand même les 10 ans de cette charte-là et de ce qu'elle a apporté en termes d'accessibilité à des soins et à différents droits. Donc, c'est une petite avancée, mais comme on le disait, François, dans certains, même si c'est des territoires français, on est encore en développement dans certains de ces départements-là. Donc, effectivement, il y a encore du travail à faire. Vous allez me dire qu'il y a encore du travail en France aussi.
Il y en a partout, mais on commence quelque part.
On commence quelque part, et donc, ça a été souligné à l'île de la Réunion la semaine dernière.
Parlant à l'autre spectre de la technologie et ainsi de suite, là, Google France. Voilà,
oui.
Google France, évidemment, on sait que Google a une certaine responsabilité sociale parce que en l'Union européenne leur tape régulièrement sur les doigts pour des questions de monopole.
Effectivement.
Mais enfin, c'est autre chose. Mais Google France inaugure un espace.
Oui, ils ouvrent un centre de découverte pour l'accessibilité à Paris. C'est un centre qui a pour objectif de sensibiliser les publics aux technologies d'assistance et de favoriser la collaboration entre les partenaires et les associations, le grand public et les employés de Google. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est favoriser l'accessibilité des technologies, entre autres pour les personnes en situation de handicap.
Et ça, c'est pas la première fois. Il y a eu, en fait, Munich, Londres, Dublin, Zurich ou Dubaï, à Milan. Ce même genre d'espace existe déjà et propose aux visiteurs de découvrir les besoins des personnes en situation de handicap pour peut-être inciter les gens qui font du développement ou qui créent des solutions informatiques d'être au fait des technologies d'assistance. Ils pourront y découvrir des solutions innovantes, participer à des ateliers ou à des formations. Et là, évidemment, Google souhaite que cet espace, qui sera ouvert au grand public, attire suffisamment de gens et d'intérêts pour que ce soit pérenne. Alors,
oui.
Les questions, pour l'instant, c'est comme encore au niveau de l'expérience.
Oui. Mais d'abord, on sait que c'est ça. Google est quand même une entreprise, donc il faut malheureusement que ça rapporte de l'argent pour que ça reste ouvert.
Ben oui.
Même si Google n'a pas besoin d'argent, là, je vous l'apprends.
Ben,
mais quand même.
Ils en ont besoin pour faire d'autres affaires.
Oui, bon, vu comme ça. Vu comme ça.
On parle de sport. Des fois, c'est des initiatives locales qui sont les bienvenues. On parle d'une piscine.
Oui. Donc, on parle d'une piscine qui a des vestiaires adaptés, des fauteuils motorisés de mise à l'eau, des box pour les chiens d'assistance.
Oh, ça, c'est gentil, ça.
Oui, ça, c'est gentil, mais un mien, il ne va pas dans un box, il s'attend sur le bord de la piscine. Mais, bon, chacun. Donc, on parle de la piscine Camille Moffat de Portier-Valence dans le Drôme.
Qui
est la première du département à obtenir le label Tourisme et Handicap, le label qu'on connaît bien, François, dans le Paris, dans les dernières semaines.
Tout à fait.
Donc, c'est un label qui vient souligner que l'endroit est accessible aux personnes en situation de handicap du point de vue touristique. Donc, effectivement, on a, le samedi 23 novembre, dévoilé devant l'établissement le label que l'équipement vient de décrocher. Et on parle donc de différents équipements qui vont aider les personnes en situation d'handicap à aller à la piscine de façon la plus autonome possible. On parle de technologie de dernière pointe. C'était déjà relativement adapté dans le sens où on avait quelques équipements, mais c'était des équipements qui étaient vieillots. Donc, on a rafraîchi nos équipements. On a aussi réadapté les endroits pour que ce soit plus facile pour les personnes en situation d'handicap. Aussi, l'établissement offre de la formation.
Oh, ça, c'est important parce
aux gens qui travaillent, parce qu'avoir des bons équipements,
c'est une chose,
mais après, il faut savoir s'en servir. Il faut savoir donner un service adéquat aux personnes en situation d'handicap. Des fois, ça manque quand les gens sont mal informés. Peuvent être un peu maladroits.
Ça peut être dangereux même.
Ça peut être dangereux.
Sous-utilisé au mieux et dangereux au pire. Pour ceux qui sont curieux, la Drôme, c'est entre Grenoble et Avignon. C'est dans le sud-est de la France. Alors, si vous allez à Grenoble, là, vous descendez vers le sud, bien, vous allez arriver éventuellement à Avignon. Puis entre les deux, bien, vous allez avoir traversé la Drôme. Voilà.
Pour ceux qui voudraient se baigner dans les prochains jours.
Mais il y a Montélimar, d'ailleurs, dans la Drôme. Montélimar qui est reconnu pour son nougat.
J'allais le dire, François.
Ah, je sais. Enfin, on se reparle de tout ça et de d'autres choses juste après la pause.
Détour avec François Beauregard.
De retour après la pause, on continue la revue de presse avec Élisane Pellerin. Les fauteuils roulants, oh là là, il y a comme un vote qui a lieu demain à l'Assemblée nationale en France.
Oui, on a parlé il y a quelques semaines, François. On parle donc de l'Assemblée nationale qui doit voter au niveau du remboursement intégral des fauteuils roulants. On en avait parlé. Macron avait fait une promesse à l'époque comme quoi les fauteuils roulants...
Il en a fait quelques-unes.
Oui, mais là, on parle des fauteuils roulants qui seraient remboursés intégralement, François. Et là, on est rendu au vote.
Tout à fait. Et c'est une question importante parce que jusqu'à maintenant, y avait des plafonds de remboursement pour les fauteuils. Et malheureusement, les fauteuils sont plus coûteux que le plafond.
Quand même beaucoup plus
pas
coûteux.
Pas mal plus coûteux.
Puis évidemment, les plafonds n'ont pas suivi.
Tout à fait. Et ce qui faisait que malgré la prise en charge de l'excédent du coût des fauteuils, souvent, ça posait problème. Alors maintenant, Sébastien Pétavi, qui est un député paraplégique de Dordogne. Alors lui, évidemment, c'est une cause qui lui tient à cœur parce qu'il sait de quoi il parle. Mardi, le 26 novembre, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée a approuvé un projet de loi déposé par M. Pétavi, comme quoi il n'y aurait plus de limite, que si vous avez besoin d'un fauteuil, on va vous le payer, quel qu'il soit. Mais dans ce sens-là, ben, c'est quand même peut-être un test, si je peux dire, pour l'Assemblée nationale en France, Assemblée qui est un peu divisée politiquement, là.
Oui, bien, écoutez, c'est sûr que, effectivement, malheureusement, ça ne devrait pas être des questions politiques, mais ça devient des questions politiques exact. Entre les partis, même si ça vient du gros bon sens pour la plupart d'entre nous. Mais il y a aussi, bon, si vous voyez, s'il n'y a plus de plafond, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire rembourser n'importe quel fauteuil? C'est quoi, à ce moment-là, les limites qu'on va mettre?
Oui, pas d'abus non plus.
C'est ça, pour éviter les abus, pour s'assurer que tout le monde ait accès à l'équipement dont il a besoin. Donc, c'est tout ça qui va être à regarder par la suite, mais quand même, il y aura un vote là, demain qui devrait faire passer donc ce projet de loi-là et qui pourrait donc avoir une étape supplémentaire avant qu'on puisse légiférer adéquatement et éventuellement mettre cette loi-là, si tout va bien, en fonction.
Action. Tout ouais. à fait. Mais ça, c'est dans un contexte aussi où il doit y avoir, il y a encore une discussion budgétaire, je pense, en France. Hein, le premier ministre Barnier essaie de faire passer un budget qui est quand même assez serré.
Oui.
En naviguant entre deux pôles de droite et de gauche. Qui ont évidemment des vues un peu contradictoires sur le sujet.
Oui, ben c'est ce qui arrive souvent en France, hein, étant donné que les ouais. partis sont très polarisés d'un côté comme de l'autre. Et donc, effectivement, il faut dire que les personnes en situation de handicap, on en parlait, François, sont pas gâtées dans ce budget-là particulièrement. Donc, effectivement, c'est un peu épineux comme question.
Oui, tout à
et là,
fait.
Il faut montrer qu'on soutient les personnes en situation de handicap pour essayer de bien paraître, voilà. en même temps, essayer d'avoir un budget qui fait du bon sens. Donc, voilà,
généralement, ce qui arrive, c'est que c'est au niveau bureaucratique où les coupures qui font mal sont faites, mais ça, c'est un petit peu derrière les portes closes.
Oui.
Alors que maintenant, on parle d'un vote sur la place publique. Ah, ça fait moins moralement...
Oui, bien, il faut bien paraître. Hein. C'est plate à dire, mais il faut bien paraître.
Ah, bien, c'est correct. On n'a pas de problème à les mettre au pied du mur. Là, on va parler d'une invention extraordinaire. J'en ai parlé à des amis pendant le week-end et tout le monde en veut une.
Bon, vous allez vous en acheter une.
Pour Noël.
Je suis sûr, hein, François. On parle de Indinov, oui.
Je suppose, oui.
Je suppose, effectivement.
I-N-D-I-E-N-N-O-V.
Merci, François. Donc, invention d'une ceinture airbag pour prévenir les fractures chez les seniors. François, vous êtes toujours pas un senior, mais...
Ben oui, j'en suis un.
J'allais dire que vous pourrez y acheter et attendre d'en avoir besoin dans quelques années.
C'est pas. Parfois, négocier un escalier peut être difficile. Alors, des milliers de fractures du col du fémur ou des hanches, hein, chaque année, surviennent dans la population en général, mais plus particulièrement les personnes plus âgées ont perte d'équilibre. Et ces fractures-là créent des hospitalisations, sont lentes à guérir et parfois, ça déboule dans des conséquences jusqu'au décès.
Il y a beaucoup de pertes d'autonomie qui sont associées à cela. Donc, effectivement, on a une ceinture donc, qu'on peut mettre au niveau des...
C'est une vraie ceinture. Oui. Hein, ça ressemble, c'est un petit peu plus épais qu'une grosse ceinture de cuir, là, mais ça a presque l'air d'une ceinture.
Oui. Oui. Et on peut mettre ça au niveau donc de la taille. Et effectivement, ça va s'ouvrir en airbag, donc en coussin protecteur.
En cas de chute.
En cas de chute.
C'est la façon que ça marche, c'est incroyable.
C'est tout à fait ingénieux.
Il y a des cellules qui... En fait, qui sont capables de percevoir la situation tridimensionnelle de la cellule, de la ceinture, dis-je. Et en cas de chute, ça perçoit le fait qu'il y a une chute.
Oui.
Et il faut éviter entre la station debout et la station assise, parce que si on ne fait que s'asseoir à table et que le airbag se déploie à chaque fois qu'on mange, c'est un peu gênant.
Oui, ça peut être gênant, surtout sur un rendez-vous galant, par exemple.
Oui, voilà. Mais c'est incroyable.
Ça peut quand même aider des gens
qui
ont des problèmes et avoir moins de difficultés avec avoir moins d'accidents. Donc, pour les personnes âgées, par exemple, qui veulent conserver leur autonomie,
tout à fait.
C'est une façon de plus d'être en sécurité à la maison. Donc,
en moins de 200 microsecondes, une fois que la perception de la chute a été enregistrée par la ceinture Indinov, il y a un coussin gonflable, comme on en a dans les autos, qui va se déployer autour de la personne, un peu comme si la personne se retrouvait au milieu d'un beigne.
Oui, voilà, comme une bouée.
Oui, tout à fait. Une bouée de sauvetage.
Oui, comme une bouée.
Et ça va absorber le choc. Alors, ça n'empêche pas la personne de tomber.
Non.
mais ça fait que le choc sur le sol va être évidemment absorbé. Et il y a une cellule ou un émetteur qui va composer automatiquement le numéro de téléphone de 5 intervenants.
Oui. Donc, il y a quelqu'un qui pourra venir aider à relever la personne parce qu'effectivement, un coup qu'on a absorbé un choc au sol, il faut relever la personne. Donc, ça a été réfléchi quand même, François.
Tout à fait.
Par contre, oui. Comme cadeau de Noël, c'est quand même... encore dispendieux, hein?
Oui,
on ça parle coûte... de 490 euros.
Ben oui, 490 euros, c'est quoi? C'est à peu près 850 $, quelque chose comme ça.
Oui, à peu près.
C'est disponible en plusieurs tailles, en plusieurs coloris.
Oui.
Ah, ben ça, ça fait plaisir.
Vous pourrez choisir vos couleurs, François.
Ben, parce que ça dépend comment on s'habille ce jour-là.
Ben, tout à fait, comme ça, vous pouvez en avoir trois.
Ben, oh, pouvez... ben trois, là, ça commence à être dispendieux.
Et vous pouvez changer de...
On prend le noir. Le noir, c'est passe-partout.
Le noir, c'est passe-partout. Voilà.
Mais tu l'as dit tout de même, ça empêche des chutes. C'est certain qu'ils ont dû trouver une façon de voir que le choc du déploiement du coussin gonflable est absorbé d'une manière ou d'une autre. Parce
oui.
que si vous avez déjà été victime d'un accident de la route et que vous avez reçu
ça frappe, hein?
le coussin gonflable en pleine poire,
ça frappe.
Ça frappe. C'est pas fait pour être confortable. Alors, mais... ça sauve des vies.
Voilà,
c'est ça qui est important. C'est un peu comme la ceinture.
Et avec le temps, on espère que ça va se démocratiser et donc les prix vont pouvoir être un peu plus acceptables pour monsieur et madame tout le monde.
Sans blague, en ayant parlé brièvement de cette nouvelle au cours du week-end à quelques personnes, d'emblée, j'avais déjà comme une liste de cadeaux de Noël.
Voilà.
Oui.
Donc, tout le monde, vous savez ce que François va acheter à Noël.
Ce qu'on va faire, c'est qu'au cours de l'été, on va se tirer par terre sur le patio, on va tous gonfler nos airbags et on va aller à la piscine.
Voilà, tout à fait.
Bon, voilà, on rit, mais ça va être une...
Ça reste ingénieux.
Ça va sauver du monde.
Voilà, ça reste ingénieux.
Exactement, on espère que ça traverse l'océan jusqu'ici. Hein, en flottant. Enfin, un guide du handicap pour tous à Nîmes. La
oui.
ville de Nîmes se distingue.
Oui, donc, on a un guide qui a pour ambition d'accompagner les porteurs d'un handicap dans les déplacements, la recherche de lieux de vie, d'emploi ou de formation, mais aussi qui va aider à accéder plus facilement à la culture et sports et loisirs. Un peu comme on a ici avec Kirol, par
fait.
Exemple.
Oui, c'est vrai.
Kirol qui est peut-être un petit peu plus spécialisé, mais quand même, ça nous donne une idée de ce dont on parle. Donc, en France, on parle de 10 millions de personnes qui sont en situation... d'handicap et malheureusement, les endroits ne sont pas nécessairement tous adaptés.
Accessible. Exact. La ville de Nîmes qui s'est distinguée récemment au niveau français pour toute la France avec la marque Destination pour tous. Et Nîmes, on le sait, est le site et particulièrement connu pour ses sites archéologiques et ses sites romains.
Oui.
Hein, les aqueducs, les arènes, ainsi de suite. Alors, c'est sûr
et
que...
il y en a 8 qui sont accessibles, François.
Oui, et c'est du travail, parce que ce ne sont certainement pas le genre de sites historiques qui, d'emblée, sont accessibles.
Non, effectivement. Ça prend quelques petites rénovations.
Voilà, ou des accommodements, des rampes. Alors, bravo pour Nîmes. On va revenir après la pause, et puis on aura le plaisir d'aller à Calgary. Vince Guaraldi, un pianiste de San Francisco. Il est plutôt connu du public au sens large pour ses musiques thématiques des films de Charlie Brown, les personnages de Peanuts, hein, qui faisaient des bandes dessinées animées, des bandes animées qui passaient souvent à la télé dans le temps de Noël. Voilà, mais Vince Guaraldi a eu une très belle carrière au-delà de Peanuts et Charlie Brown. Cela dit, à Calgary, en Alberta, il y a un marché d'art créatif.
Oui, un marché collectif créatif qui est organisé par la société Scope, qui s'est tenu donc samedi dernier à Calgary. Près d'une trentaine de créateurs en situation de handicap qui sont venus présenter leur genre, leur travail artistique. Donc, et qui sont évidemment venus les vendre dans un marché de Noël, comme on voit de façon traditionnelle dans le temps des fêtes. Donc, on souhaitait mettre de l'avant, évidemment, les créations des personnes en situation de handicap. On parle de toutes sortes de créations, François, qui passent de la peinture aux créations plus de colliers, complexe, par exemple, et de tissus. Donc, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et ce qui est intéressant dans tout ça, François, c'est que les personnes en situation de handicap, donc, se partagent les gains à la fin de la journée. Et les organisateurs, donc, la Société Scoop, ne prennent pas de part de cet argent-là. Donc, tout l'argent allait aux personnes en situation de handicap.
Parce que le matériel coûte cher.
Le matériel coûte très cher quand on fait de l'artisanat, François. Malheureusement, on ne cesse de le répéter à votre micro, François, et peut-être qu'un jour, j'arrêterai de le dire parce que ça ne sera plus vrai, mais les personnes en situation de handicap
ont
peine à trouver un travail, sont un peu plus en situation de pauvreté.
Tout
donc, effectivement, se payer du matériel artistique, si tu n'as pas d'emploi, par exemple, et que tu vis de l'aide de dernier recours, ça peut être difficile. Là.
Tout à fait. Ben alors ça, déjà, c'est un pas dans la bonne direction et c'est aussi une façon de se faire découvrir dans un public plus large. Mais pour avoir vu quelques-unes des œuvres qui étaient exposées...
C'était très beau,
C'était très, très beau.
Il y a des gens qui ont énormément de taillage. Je pense que ça peut enlever des préjugés, en fait, en montrant qu'effectivement, il y a des gens qui ont énormément de potentiel.
Tout à fait.
Puis qu'on peut créer, même si on a des problèmes d'handicap multiples, y compris parfois des problèmes moteurs, mais on réussit à créer quand même en utilisant différents outils qui vont aider les personnes en situation de handicap à être capables de tenir, et bien sûr de tenir le matériel d'art convenablement. Donc, il y a toujours façon de se débrouiller.
Tout à fait. Il y avait le film qui s'appelait My Left Foot, qui est l'histoire d'un peintre irlandais qui n'avait l'usage que de ses pieds et qui peignait avec son pied gauche. C'est vrai, c'est un très beau film, ça.
Oui, ça me dit quelque chose, vaguement.
Les années 90, là. Ouais. On revient au Québec, et là, c'est proprement scandaleux, ce dont nous allons parler.
Oui,
d'ailleurs,
François,
nous aurons peut-être quelqu'un qui sera avec nous pour en parler plus avant encore au courant des prochaines semaines. Mais cela dit, prenons le temps de nous y arrêter. L'argent manque pour adapter les maisons.
Malheureusement, François, et ça me désole de devoir vous dire ça, mais il n'y a pas grande adaptation à domicile. Et en fait, ne prend plus de demandes parce qu'ils n'ont plus d'argent dans leur coffre.
La caisse est vide.
La caisse est vide, François. Et je ris, mais c'est pas drôle, là, c'est un rire jaune. Donc, on est au tout début du mois de décembre. Il y a des milliers de personnes en situation de handicap au Québec dont les projets sont sur la glace parce qu'effectivement, on n'a plus d'argent pour adapter. Et donc, on a mis un programme en arrêt.
Jusqu'en avril, jusqu'au prochain budget. Mais au prochain budget, qu'est-ce qu'ils en feront? Est-ce qu'ils vont...
On va voir.
On parle de milliers de personnes qui vivent dans des logements ou des maisons qui sont peu ou pas adaptées à leur situation et qui ont fait une demande et qui veulent transformer ou rénover la maison pour qu'elle soit adaptée. Et on parle de la sécurité, là. C'est pas des rénos cosmétiques.
Non, c'est pas pour faire plus beau, François. On parle de rampe, on parle évidemment d'ascenseur, on parle donc
de cuisine,
de baignoire adaptée. Oui. Tu sais à quel point ça peut être dangereux d'avoir une baignoire qui n'est pas adaptée, mais que tout le monde doit quand même se laver dans la vie.
Exact.
Donc, si on n'a pas d'adaptation, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord et ça peut être extrêmement dangereux. Donc, effectivement, on parle de la Société d'habitation du Québec. C'est la Société d'habitation du Québec qui s'occupe de ce programme-là et qui a mis...
Discrètement.
Oui, ben voyons, on n'en a pas trop parlé, mais comme d'habitude, entre autres, nos amis d'Execo ont levé le drapeau puisqu'ils sont, ils sont à la veille, donc ils ont vu ça passer. Donc, on avait une augmentation donc de 15 % au niveau du nombre de demandes par rapport à l'an dernier.
En fait, ce qui arrive, c'est souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le gouvernement du Québec a rehaussé le plafond de 16 à 50 000 $. Et ça, évidemment, ça, c'était... Je dirais normal, parce que ça faisait des années que le plafond de 16 000 avait été établi et avec l'explosion des coûts...
ça répondait plus aux besoins.
Des matériaux et de la main-d'œuvre dans le domaine de la construction, avec 16 000, on ne faisait pas suffisant. Alors, on a monté ça à 50. Bravo. Cependant, on n'a pas augmenté l'enveloppe de façon
l'enveloppe
suffisante.
L'enveloppe totale de façon suffisante, effectivement. Mais, et alors, on a eu quand même plus de demandes.
Ben oui, s'il y a beaucoup de demandes qui... On dit aux gens... Profitez-en, le plafond a été haussé, ça tient compte des coûts véritables.
Donc, on a fait la promotion, mais on avait mal prévu. Il y a l'effet d'engouement et il fait que, forcément, si on augmente le plafond 50 000 $ plutôt que 16 par personne, il va y avoir plus de demandes et les demandes vont effectivement, évidemment, coûter plus cher.
Parce que, vite, vite, là, 16 et 50, ben c'est le tiers.
Oui.
Alors, déjà, l'enveloppe aurait dû croître de 3 fois pour que le même nombre de demandes puisse être accepté. Les demandes ont augmenté. L'enveloppe est passée de 14 à 37 millions. Bravo. Mais malheureusement, ce ne fut pas assez. Et là, on a appris presque par inadvertance, par simplement un petit communiqué sur la page web, que la Société d'habitation suspendait pour une période indéterminée les principaux volets de son programme d'adaptation à domicile. Alors là, depuis, oui, levé de bouclier, et c'est assez justifié.
Oui, effectivement, François, parce que vous l'avez dit, c'est une question donc de sécurité. Et déjà, les délais étaient quand même importants.
Oui, tout à fait. On parlait de plusieurs mois, même s'il y avait une volonté d'accélération.
En mettant ça à l'arrêt, en fait, effectivement, il y a des personnes qui, je le disais tout à l'heure, on va être obligé de se débrouiller. Et on parle évidemment de rénovation qui souvent coûte plusieurs milliers de dollars. Donc... ça va être difficile là, pour les personnes en situation de handicap de prendre le coup. Et comme je le disais, en fait, effectivement, c'est un coup de plus, hein, François. C'est des coups de plus pour les personnes en situation d'handicap.
Voilà.
Et c'est pas les seules choses qui ont été coupées, bien sûr. Et là, si on ajoute les uns aux autres...
Ça fait dur.
Ça commence à, ça commence à être difficile, là.
Tout à fait. Cependant, et là moi, je trouve ça un petit peu... Je trouve ça bien, puis en même temps, ça me fait un petit peu tiquer. Le réseau de transport de la capitale, RTC, qui s'occupe des transports en commun dans la région de Québec, revoit les critères d'accessibilité universelle de ces arrêts. Et on peut maintenant y avoir l'entièreté des 158 parcours sera accessible.
Oui, effectivement. Mais là, il faut dire, voilà, on a... accepter que les trottoirs qui étaient dont la largeur minimum devait être de 2 mètres pour être considéré comme accessible en arrêt, soit de 1 mètre et demi. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'effectivement, il y a plus de...
D'arrêts
qui sont accessibles, mais pas parce qu'on a fait grand-chose.
C'est pas parce qu'ils sont plus accessibles en soi, c'est simplement qu'on a baissé les standards.
Oui, on a baissé les critères. D'un côté, c'est une bonne nouvelle. D'un autre côté, il faut dire, voilà, dans les faits, sur le terrain, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Okay?
L'amélioration est au fait que comme tout... On est passé de 1400 à... 4500 arrêts pourront être empruntés par un fauteuil roulant. C'est simplement que si vous cherchez un parcours à Québec, vous allez avoir sur votre itinéraire proposé plus de possibilités parce qu'on va inclure les arrêts où le trottoir ne fait que 1,5 mètre.
Oui.
Évidemment, la contrepartie à ça, c'est que vous allez devoir être plus habile avec votre fauteuil pour être capable de monter à bord.
Oui, donc ce qu'on répond là au niveau de la RTC, c'est que ce n'est pas une question de sécurité parce que 1,5 mètre, ils considèrent que c'est assez large pour être sécuritaire. Par contre, effectivement, au niveau des manœuvres pour embarquer dans les autobus, surtout avec des équipements qui sont assez larges, ça va prendre un petit peu de...
D'habileté.
D'habileté, voilà.
Et quelqu'un dont la situation en fauteuil roulant est relativement récente, ne les a peut-être pas toutes acquises.
Oui, ou quelqu'un qui perd un peu de mobilité ou de...
Un petit peu plus de
difficultés, effectivement, là, sur un trottoir d'une largeur de 1,5 mètre, ça pourrait être un petit peu plus difficile d'embarquer dans les autobus. Après,
semble-t-il que cette largeur est quand même celle qui est utilisée de façon standard dans d'autres sociétés de transport.
Vous allez me dire, François, j'étais à Madagascar, j'ai pas eu le temps de me rendre à Québec pour aller l'essayer.
Mais
vous nous direz, chers auditeurs, auditrices, de quoi ça a l'air 1,5 mètre avec un gros quadriporteur, par exemple? Je ne sais pas.
C'est une bonne question parce que
ne sais pas.
Bientôt, tout le métro va être de Montréal va être accessible au même
bientôt?
Compte.
Bientôt?
Voilà,
oui.
Ben oui, parce qu'on n'aura plus besoin d'ascenseur.
Vu comme ça.
Ah, je suis pas gentil. Mais enfin, il faut reconnaître tout de même que cet arrangement a été fait avec une consultation en amont. Alors, ce sont quand même des gens issus du milieu du handicap dans la région de Québec qui ont accepter cette redéfinition-là.
Oui, par des organismes donc de défense des droits des personnes en situation de handicap.
On comprend que ça a été une décision qui a été faite de concert.
Oui.
Et en toute connaissance de cause, ben, tant mieux si ça peut aider les gens à se bâtir des itinéraires plus conviviaux.
Il faut dire que 94% des autobus sont munis de rampes
accessibles
qui peuvent se descendre donc pour être accessibles. Donc, 94, c'est pas si mal.
Exact, tout à fait.
Et ceux qui ne sont pas accessibles là, sont des vieilles flottes qui devraient être enlevées d'ici...
Retirées bientôt
d'ici
du
2026,
service, hein?
Quand même. Donc, bon, exactement. On fait quand même un certain effort au niveau de la Ville de Québec, même si on...
Faut pas étirer l'élastique plus loin, c'est ce que je dirais, là.
Oui, bon, on fait quand même un certain effort, François.
Ben,
on va souligner, même si ça a des bémols. Disons-le comme
ça. Oui, disons que... on se comprend. Les maisons de la culture font un pas de plus vers l'accessibilité depuis le 15 novembre à Verdun. Il y a un sondage qui circule.
Il y a un sondage qui circule sur les réseaux sociaux de la maison de la culture de Verdun dans le but d'analyser les besoins du public en matière d'accessibilité à l'établissement. Ça fait partie de la vision de développement 2030 des maisons de la culture dans Montréal.
Bravo.
Qui se positionne pour rendre plus inclusifs les programmes culturels et évidemment les lieux des programmes culturels, donc les maisons en elles-mêmes, pour les personnes en situation de handicap. C'est en collaboration avec Entendre Québec qui s'occupe évidemment des personnes avec des handicaps auditifs et qui roule, qu'on connaît bien.
On souhaite que cette initiative-là fasse tache d'huile. On a un communiqué de la ville qui facilite significativement, la ville de Montréal s'entend, facilite significativement le déneigement des débarcadères pour les personnes à mobilité réduite.
Oui, pour l'hiver 2024-2025, donc l'hiver
qui est à
nos portes, là, oui, tout à fait. Donc, on va parler de déneigement des débarcadères pour les personnes à mobilité réduite. Après une mesure de 5 cm au sol, il y a 400 débarcadères qui vont être déneigés. Les opérations devront être réalisées en continu et devront être terminées au plus tard.
Voilà.
8 heures après la fin des chutes de neige. On parle d'un budget de 200 000 $ qui servira à mettre en œuvre ce service. Donc, on veut déneiger plus rapidement et on veut attendre moins longtemps, qu'il y ait moins d'accumulation de neige.
C'est une collaboration entre le service de transport de Montréal et Exequo. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un contrat spécifique. Alors, ça va être facile de savoir si le déneigeur fait bien ou non son travail. Bien, pour aujourd'hui, c'est tout. Mathieu Tessier à la régie, Claire Guéret à la recherche, Élisane Pellerin.
Merci, François.
À la prochaine.
À la prochaine.